Parallèlement à cette évolution, à laquelle bien sûr le Code civil a remédié, il y a également une presse qui est une presse à scandale, qui se charge de percer les dessous de tout et de publier le cliché qui fera sensation. Et la recherche du scandale et du sensationnel peut provoquer parfois évidemment des drames personnels et familiaux. Et donc cette presse-là aussi ne respecte pas toujours les règles qui sont fixées. Alors, quels sont les textes qui régissent le droit de l'image? Donc, vous avez d'abord la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui souligne l'importance de la liberté d'expression et de la liberté de la presse en son article 11, et la loi du 29 juillet 1881, qui est la loi sur la liberté de la presse. En ce qui concerne l'image des personnes, il y a eu au départ, un ensemble de jurisprudences, c'est-à-dire de décisions de tribunaux et de cours, qui ont réglé au coup par coup les situations. Et dès 1858, le tribunal civil de la Seine, lors de la prise d'un tableau, parce qu'à l'époque, la photographie ne devait pas être encore née, je parle sous votre contrôle, parce que
Non.
à l'époque, c'était un tableau qui représentait une personne connue sur son lit de mort. Et donc, le tribunal civil de la Seine a affirmé: nul ne peut, sans le consentement formel de la famille, reproduire et livrer à la publicité les traits d'une personne sur son lit de mort, quelle qu'ait été la célébrité de cette personne.
Puis l'affaire Mitterrand, ça aussi.
Alors, il y a eu l'affaire Mitterrand aussi. Et là, il s'agissait donc d'un tableau. Et la Cour d'appel de Paris a également consacré diverses jurisprudences. Notamment une en 1966 disant que chaque individu a le droit au secret de sa vie privée et est fondé à obtenir la protection. Et par la constance de toutes ces décisions, la régularité des jugements, les tribunaux ont dessiné les contours d'un véritable secret au droit de la vie privée et comportant pour son titulaire des pouvoirs déterminer le droit à l'image. Il y a eu les affaires Picasso, Brigitte Bardot, Gérard Philippe, dont on s'est ému. Et le législateur, c'est souvent un petit peu comme ça d'ailleurs, c'est souvent les décisions des cours et tribunaux qui poussent le législateur à prendre une loi. Et c'est ainsi qu'en 1970, le 17 juillet 1970, émerge une loi qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Loi qui a été codifiée, c'est notre terme qu'on emploie, c'est-à-dire reproduite en fait dans le Code civil, sous l'article 9, ce fameux article 9 qui est la base de tout. Cet article 9 qui prévoit que toute personne, alors je vais vous le lire comme ça, ce sera plus simple, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure, telle que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup la voie du référé, c'est-à-dire qu'on saisit le président du tribunal de grande instance dans l'urgence, en demandant, bien entendu, parce que si par exemple c'est par voie de presse et qu'il y a une photo diffamatoire d'une personne qui porte atteinte à sa vie privée, il faut arrêter cette publication. Donc évidemment, on utilise beaucoup le recours au référé. Donc l'article 9 du Code civil pose les bases, il est reconnu à chacun une zone d'activité qui lui est propre et qu'il est maître d'interdire à autrui. Et l'article 9 préserve donc une sphère de liberté et de secret pour les personnes. Alors, le respect de la vie privée est aussi considéré comme étant un droit de l'homme et de la femme, reconnu par Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, à l'Assemblée générale des Nations unies du 10 décembre 1948, et par la Convention européenne des droits de l'homme qui sauvegarde les libertés fondamentales, c'est l'article 8. Donc, la liberté, le respect de la vie privée est considéré comme un droit fondamental de l'être humain, au même titre que la liberté d'aller et venir, la liberté de penser, la liberté de culte, etc. Alors, vous me direz, ça pose tout de suite problème, puisque d'un côté, il y a la liberté de la presse, et de l'autre côté, il y a le respect de la vie privée. Comment va-t-on s'organiser entre ces frontières et entre ces deux limites qui ne sont pas tellement étanches et que les cours et tribunaux ont du mal à apprécier parfois? Alors c'est ce que nous allons voir tout d'abord. Ça, c'est au niveau du droit national. Mais au niveau du droit international, il peut aussi y avoir des contradictions entre les conventions européennes et et les termes des jurisprudences françaises. Normalement, la norme européenne prime sur le juge français. Mais le juge a un pouvoir propre d'interprétation.